de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et on termine cette émission du mardi, comme à chaque mardi, avec votre chroniqueur Alex Tremblay-Lamarche. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comme à chaque semaine, tu as une thématique qui vient teinter tes propositions littéraires et cette fois-ci, elle est sous le thème des coupures en culture.
Ouais, ça va mal, hein?
Ça va mal.
Les mauvaises nouvelles en culture s'additionnent les unes après les autres. Ouais. Compagnie de théâtre, compagnie effectivement de troupes de musique, ensembles musicaux, les musées. On ne compte plus effectivement les coupures qui ont été annoncées, qui forcent les organismes à se réinventer.
Ouais.
Et je me suis dit, bon, afin de marquer ce triste constat, que j'allais vous offrir quatre suggestions littéraires dans l'univers de l'histoire culturelle.
Et le premier ouvrage que tu nous proposes, c'est Concert d'orgue au cœur de notre vie musicale. L'orgue, c'est tellement un instrument que je trouve fascinant.
Oui, c'est un instrument qui, aujourd'hui, est jugé des fois un petit peu vieillot, mais qui, en même temps, quand même un intérêt. Il y a un renouveau pour l'orgue. Le Palais Montcalm s'est doté d'un orgue symphonique. Même chose avec la salle de l'OSM à Montréal. Donc, l'orgue connaît effectivement un renouveau depuis quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul Cadrin, dans cet ouvrage-là, nous parle de comment, face à un contexte de crise économique pas évident, dans les années 1930, le milieu de l'orgue a été capable de se réinventer. On voit vraiment effectivement l'histoire des concerts d'orgue au Québec depuis la fin du 19e siècle jusqu'à dans les années 70-80. Et on voit comment dans les années 1930, il y a un groupe de passionnés qui ont décidé de fonder un groupe qui allait donner des concerts d'orgue afin de valoriser effectivement cet instrument. On commence tout d'abord en soulignant les débuts de l'orgue au Québec, la professionnalisation de la profession d'organiste, la visite de vedettes aussi, parce que, aujourd'hui, on se dit, voyons, l'orgue, c'est sympathique, mais tu sais, en 1893, Alexandre Guillemin, qui est le grand maître de l'orgue en France avec Vidard, va être capable de faire deux soirs salle comble, 5000 personnes. C'est quand même quelque chose.
C'est grandiose.
L'orgue a déjà été un instrument beaucoup plus populaire qu'il ne l'est aujourd'hui, dans le sens, c'est ça, là, qui faisait courir les foules. L'orgue, effectivement, va devoir se réinventer à la suite de la crise économique, grâce notamment à la société Casa avant, qui est principalement basé à Montréal. Mais Paul Cadrin explore aussi les renouveaux de l'orgue qu'il y a eu à Trois-Rivières, à Québec et ailleurs. Donc, un ouvrage qui permet de voir comment un instrument a su se réinventer et comment des acteurs dans le milieu de l'orgue ont été capables de se rassembler pour faire vivre cet instrument.
L'histoire parle de quelle année à quelle année? C'est quoi l'époque qui est discutée?
Je dirais à peu près des années 1890 jusqu'aux années 1970-80. Vraiment, effectivement, tout le déploiement de l'orgue dans les deux premiers tiers du 20e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que, notamment, il va y avoir un petit renouveau, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où là, hop, on a un regain. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, au final, en culture, il y a des cycles avec croissance, décroissance, etc. Et on le voit avec l'histoire des concerts d'orgue. Et ça peut nous amener à réfléchir sur la situation actuelle.
L'année dernière, j'ai eu l'occasion, pendant le mois multi, qui commence cette semaine d'ailleurs, de voir un concert d'orgue, mais un orgue qui avait été tout décomplexé. Ça s'appelait Organisme par l'artiste Navid Navab. J'y pense encore. C'était incroyable. C'est comment reprendre cet instrument-là qui a une histoire, puis comment on peut le réutiliser d'une autre manière, de lui apporter une autre sonorité. C'était vraiment époustouflant. Voilà.
Effectivement. Et puisque l'orgue est un instrument patrimonial, j'avais envie de continuer avec La Somme d'une vie, le patrimoine du Québec, selon Michel Lessard. C'est un collectif qui vise à rendre hommage à Michel Lessard. Michel Lessard, c'est un un nom qui est bien connu dans le milieu du patrimoine et c'est un nom que vous connaissez dont vous connaissez probablement l'œuvre sans le connaître si vous n'êtes pas dans le milieu du patrimoine. Concrètement, après des études au Collège de Lévis à l'Université Laval, il s'est lancé dans une carrière vraiment pour faire connaître notre patrimoine. Il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la photographie. Au Québec, notamment la famille Livernois qui était située là où est le pub Saint-Patrick aujourd'hui, qui ont été une grande famille de photographes à Québec, mais aussi à l'histoire des antiquités au Québec à une époque dans les années 60-70 où on se tourne vers l'avenir, c'est la Révolution tranquille, on a un désir de neuf. Michel Lessard va conscientiser les Québécois à l'importance de conserver leurs antiquités puis à la valeur que ces antiquités ont, et donc il va notamment réaliser toute une série de films documentaires dans les années 1980, dont on parle à l'intérieur du livre, notamment dans un texte d'Alexis Lemieux. Et donc, l'ouvrage est issu d'un colloque qui visait à rendre hommage à Michel Lessard vise à montrer comment Michel Lessard a réussi à inscrire le patrimoine dans la modernité. Son œuvre pédagogique, il a été professeur à l'UQAM. On a également effectivement un texte de Michel Lessard, son tout dernier texte qu'il a écrit, qui est mis à la toute fin de l'ouvrage, qui est sur les derniers portraits. C'est quand même assez touchant parce que dans le fond, quand quelqu'un meurt ou quand quelqu'un s'apprête à mourir, on va vouloir conserver un souvenir de cette personne-là. Donc, on voit au 19e siècle des fois des photos d'enfants décédés ou de personnes qui sont décédées. Et il continue l'évolution de cette pratique-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, avec l'aide médicale à mourir ou avec certaines personnes âgées qui, ne vont plus très bien, on a cette tradition-là, effectivement, d'essayer de rassembler la famille autour de la personne qui s'apprête à mourir pour être capable de prendre une dernière photo de famille. Donc, on n'ose plus la photo du décédé comme, effectivement, on faisait au 19e siècle, mais on essaye quand même, effectivement, d'avoir une photo de la personne qui s'apprête à partir, mais avec la famille, non plus de la personne seule. Donc, on voit vraiment une évolution des mentalités et c'est un texte parmi d'autres de Michel Lessard, mais ça donne une idée à quel point les idées qu'il a apportées ont contribué, effectivement, faire connaître le Québec sous de multiples angles et comment le Québec a pu s'approprier son patrimoine grâce à Michel Lessard.
Et le prochain ouvrage nous emmène dans le monde de la peinture avec les peintres de la Montée Saint-Michel, un groupe montréalais 1911-1946 de Richard Foisy.
Cet ouvrage est honnêtement superbe.
Juste le devant de couverture est... Et magnifique, là.
Donc, un ouvrage grand format, couverture cartonnée, papier glacé, images en couleur. Je vous dirais que aujourd'hui, on n'a plus tant que ça d'ouvrages comme ça. Souvent, les éditeurs vont avoir une conscience environnementale qui va vouloir les amener à vouloir imprimer sur du papier recyclé en noir et blanc. Et aussi pour une question de coût, souvent, on va faire des ouvrages qui sont dans un plus petit format, qui sont aussi en noir et blanc. Là, on a décidé de se faire plaisir pour pouvoir donner aux peintres de la Montée Saint-Michel un ouvrage qui leur rend hommage et qui permet vraiment de prendre conscience de la beauté de leur œuvre et de l'importance de leur œuvre. Donc, le livre en lui-même est une réussite parce que vraiment, on est capable de bien monter les œuvres, bien montrer les œuvres et de leur donner effectivement toute la magnificence qu'elles ont. Les peintres de la Montée Saint-Michel, c'est qui ça?
Ben oui, c'est ça. C'est qui eux autres?
Et c'est quoi ça, la Montée Saint-Michel? La Montée Saint-Michel, en fait, pour nos auditeurs qui connaissent un peu Montréal, c'est tout simplement le boulevard Saint-Michel. Moi qui connais un peu moins Montréal, j'ai été regarder sur une carte. C'est dans une petite quartier-ville. On est un peu plus au nord de l'île de Montréal et on est dans une région qui, dans l'entre-deux-guerres, est encore rurale. Il y a pratiquement pas grand-chose à cette époque-là, à cet endroit-là, sinon effectivement une montée qui permet de relier un village à un autre parce que sur l'île de Montréal, il y a encore des petits villages ruraux dans l'entre-deux-guerres. Et ces peintres, ces huit, en fait, ils sont d'abord sept, puis ils vont rapidement devenir huit, qui sont, qui suivent des cours du soir au Conseil des arts et manufactures, décident de s'apprivoiser ce territoire-là. et de peindre ensemble. Ils vont chacun avoir leur style. Quelqu'un comme Pépin va être beaucoup plus proche du fauvisme, alors que quelqu'un comme Narcisse Poirier va être beaucoup plus proche du pointillisme. Mais ils ont en commun effectivement de peindre cet espace-là, de peindre dans cet espace. Et bon, il y en a certains qui font du nu, il y en a certains qui font de la nature morte, donc c'est pas nécessairement peindre la montée Saint-Michel en elle-même. Mais vraiment, effectivement, ils se rassemblent ensemble, ils peignent. Ils vont même, dans certains cas, camper sur place pour être capables de voir la scène, les lieux vraiment à la toute dernière lueur du soir ou à la toute première lueur du matin pour être capable de profiter de cette lumière-là. C'est des peintres qui découlent directement du courant impressionniste. Hein. Les impressionnistes, ce n'est pas monsieur ou une madame ou un paysage qu'ils peignent, mais au final, c'est la lumière. Les cathédrales qui ont été peintes par Monet, si je ne m'abuse, et non Manet, je les mélange tout le temps, ces deux-là, les peintes à différentes heure du jour, parce qu'au final, ce qui intéresse le peintre, c'est pas tant effectivement la devanture de la cathédrale, mais c'est comment la lumière se reflète sur la devanture. Même chose avec les meules de foin, etc. Et donc, on a vraiment des peintres, les peintres de la montée Saint-Michel, qui sont beaucoup dans cette recherche de couleurs, dans cette recherche de lumière. Donc, ça donne vraiment des œuvres qui sont très, très belles. C'est des peintres qui, malgré effectivement l'approche de refus global, vont toujours conserver effectivement cette même volonté de peindre dans une perspective qui, est plus traditionnelle, plus impressionniste, plus près du pointillisme, du fauvisme, etc., et qui embrasseront pas, cette modernité avec le surréalisme, le dripping et toutes ces choses qui vont arriver, là, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment un bel ouvrage pour être capable de connaître un groupe de peintres qui a été important sur l'île de Montréal et que je ne connaissais pas. Donc, Les peintres de la montée Saint-Michel, un groupe montréalais, 1911-1940.
Et pour conclure cette chronique et cette émission également, tu nous parles du monde du cinéma avec l'Office du film du Québec, le cinéma au service de l'État et de ses citoyens.
Exact. Un ouvrage de Marc-André Robert qui est issu de sa thèse de doctorat. La plupart des gens connaissent l'ONF, l'Office national du film.
C'est ça,
c'est fédéral, alors que l'OFQ, c'est provincial. Et donc là, l'idée, c'est comment le Québec a produit des films dans une perspective un peu, je dirais de propagande, mais pas nécessairement dans un contexte négatif. Mais pour faire connaître le Québec, c'est des petits films documentaires, d'information, faire connaître sa culture. Ce qui est quand même assez cool, c'est que dans le fond, les premiers films qui sont produits par l'État québécois, c'est le service des vues animées pour le ministère de l'Agriculture, puis des campagnes de promotion puis d'éducation populaire du service provincial d'hygiène. Donc, on est vraiment dans des choses qui sont très pratico-pratiques. Et on voit comment, à partir de ces prémices dans les années 1920, on va tranquillement développer un cinéma. Un premier chapitre un petit peu plus historique sur... pas un premier chapitre, une première partie qui est plus sur les prémices, une deuxième partie qui est peut-être un petit peu plus sur les films qui ont été produits, puis une troisième et une quatrième partie où on est un petit peu plus dans l'analyse. On voit, comment on veut présenter un Québec qui est vrai, puis effectivement comment on s'en sert pour les communications de l'État. Tout plein de choses, comme par exemple lorsqu'on va faire la construction du Grand Théâtre à Québec, on va produire des films de l'OFQ lorsque le général de Gaulle va venir. Donc, vraiment, un ouvrage qui permet de comprendre comment l'État québécois a voulu se mettre en scène dans la réalisation de petits films documentaires.
Merci, Alex. L'émission tire à sa fin, mais peut-être en rafale, là, nous renommer les ouvrages que tu nous as présentés aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Donc, Le concert d'orgue au cœur de notre vie musicale de Paul Cadrin, publié aux éditions Gide. La somme d'une vie, le patrimoine du Québec selon Michel Lessard, un ouvrage collectif sous la direction de René Bouchard avec la collaboration d'Yves Bergeron et de Jean-Pierre Pichette, publié aux presses de l'Université Laval. Les peintres de la montée Saint-Michel, un groupe montréalais, 1911-1946, de Richard Foisy, publié aux presses de l'Université de Montréal. Et finalement, l'Office du film du Québec, le cinéma au service de l'État et de ses citoyens, 1961-1976, de Marc-André Robert, publié chez Septentrion.
Merci Alex, on se retrouve mardi prochain, même heure, 17h. si j'ai pas de retard sur l'émission. Pour d'autres recommandations littérature.
Avec plaisir.
Et je parle pas le jingle de fin, chère auditeur, auditrice, parce que je vous laisse avec nos amis des architectes du son. L'émission commence dans un instant. Merci d'avoir été à l'écoute de Chérie J'arrive. Et on se retrouve dès demain, 16h, pour un autre retour culturel.